Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Terrorisme dans la région de l'Est. Les populations de la province de la Tapoua décrètent une ville morte aujourd'hui. Les ressortissants de Partiaga ont pour leur part dénoncé l'inaction des autorités face à l'attaque et ce en dépit des nombreuses alertes. Insécurité toujours, la France demande la prudence aux Français présents sur le territoire burkinabé. Occupation anarchique du terrain de la Sonatura Ouagadougou dans le quartier Gargam. L'Office national de contrôle des aménagements et de construction procède à une opération d'arrachage de bornes illégalement implantées. Et puis FESPACO 2023, 21 prix spéciaux d'une valeur de 110 millions seront décernés cette année. Présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu remporte l'élection. L'opposition réclame son annulation pour raison de fraude. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Les populations de la province de la Tapoua ont décrété une ville morte ce mardi à Diapaga, chef-lieu de la province, région de l'Est, suivie d'une marche ce mercredi 1er mars pour soutenir les victimes du terrorisme, notamment les personnes ayant fui les exactions terroristes. Dans la note parvenue à Omega Media, les forces vives de la Tapoua disent inviter les populations de Diapaga à l'observation de 48 heures de ville morte, accompagnée d'une marche ce mercredi en soutien aux concitoyens chassés de leur localité par les terroristes. La note précise que le rassemblement aura lieu au terrain du lycée Outani à partir de 7 heures. Ce mardi, donc, le gouverneur de la région de l'Est a confirmé l'attaque violente de Partiaga, toujours dans la même région, le dimanche 26 février, sans donner de bilan. Les assaillants, poursuivent le communiqué, s'en sont lâchement pris aux populations civiles et ont saccagé et incendié des biens matériels. Le colonel Hébert Yamego, qui n'a pas donné le bilan de la violente attaque, a indiqué au nom du gouvernement de la transition présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a par ailleurs informé les populations que des actions de sécurisation sont en cours et qu'un bilan de l'attaque sera établi dès que possible. Lundi dernier, à Ouagadougou, les ressortissants de Partiaga ont dénoncé l'inaction des autorités face à l'attaque et ce, en dépit des nombreuses alertes qu'ils disent avoir données. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique, mais nous crions pour que l'opinion nationale et internationale entende que l'autorité que l'on dit n'avoir pas eu l'information entende et qu'elle vienne nous aider dans les jours et les heures à venir, a déclaré le porte-parole des ressortissants de Partiaga, Saïdou Sinini, poursuivant ne pas avoir le bilan humain de l'attaque, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Tous les bâtiments administratifs au moins ont été brûlés. Toutes les concessions de Partiaga ont été incendiées et des greniers brûlés, a-t-il précisé. La France a demandé dimanche aux Français présents sur le territoire burkinabé d'être prudents tout en limitant leurs déplacements et de se tenir absolument à l'écart des rassemblements critiques contre la France. Le communiqué est du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une mise à jour de ses conseils aux voyageurs publiés dimanche donc. L'équipe aussi a recommandé aux Français présents sur le territoire burkinabé de limiter donc leurs déplacements au strict nécessaire et de se tenir absolument à l'écart des rassemblements contre la France qui pourraient avoir lieu à Ouagadougou et dans le reste du pays. Selon le communiqué, la situation reste volatile, indiquant que des rassemblements critiques à l'égard de la politique de la France au Burkina Faso sont fréquemment organisés les vendredis. En conséquence, il convient de limiter ces déplacements au strict nécessaire et de se tenir absolument à l'écart des rassemblements. Il est également instamment recommandé de faire preuve d'une grande prudence et de se tenir informé de l'évolution de la situation, note le ministère français des Affaires étrangères. Fin janvier, la France a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso pour consultation et annoncer le retrait des soldats français baptisés Sabres du pays. Le 19 février, l'état-major des armées du Burkina a annoncé la fin des opérations de la force française Sabre à partir du sol burkinabé. Et parlant justement de la France, l'Afrique ne sera plus un terrain de compétition. C'est ce qu'a clamé le président français Emmanuel Macron dans sa présentation lundi à l'Élysée sur les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Comment la France peut-elle se rattraper avec autant de tromperies et d'incompréhension dans sa politique africaine, s'interroge le journaliste Sidi Kabam. Il a été joint par Abdoul Fattah Tiemtouré.
En reconnaissant que la France s'est trompée en Afrique par ses comportements, par sa façon de faire, par aussi sa perception du continent, le président Macron a amorcé une autocritique. Et même s'il n'est pas allé jusqu'au fond pour faire son mea culpa, il y a des propos qui sont inédits. En disant qu'on s'est trompé, on aurait dû faire autrement. Je pense que cette humilité a pu manquer. Quand on prend un dossier emblématique comme la crise entre la France et le Mali, la crise a été aggravée par l'arrogance des dirigeants français, par l'absence d'humilité. On a vu, moi je peux vous donner un exemple très précis, en octobre 2020, lorsque à Bamako, le premier ministre malien de l'époque, Makhtar Wane, dit que nous avons reçu mandat des forces vives du Mali pour négocier avec les djihadistes. Le ministre français des Affaires étrangères, qui était à côté de lui, qui était de passage à Bamako, a dit non, la France n'est pas d'accord pour que le Mali négocie. Ça, ce sont des erreurs, ce sont des formes d'arrogance que sur le terrain.
Pour Sidi Kaba, la France doit opérer un changement de comportement à tous les niveaux. Nous l'écoutons toujours.
Cet engagement d'humilité, ce renoncement à l'arrogance puisse se traduire dans le comportement des dirigeants français et des représentants de la France, qu'ils soient des représentants économiques, qu'ils soient des représentants, de représentants politiques de la France, les diplomates, les hommes d'affaires français, vont faire preuve d'humilité, vont reconnaître leurs partenaires africains comme des partenaires égaux. Ça me semble une bonne chose maintenant. Mais comme j'ai dit, on a déjà entendu par le passé des promesses de rupture, de promesses d'humilité, de promesses de changement de comportement, de promesses de partenariat gagnant-gagnant, qui ne se sont pas traduites par les faits. Maintenant, on va voir si cette fois-ci, c'est la bonne. La France va tenir les engagements qu'elle a promis et cela va nous permettre de pouvoir avancer. On attend de juger le discours et le président Macron sur le fait.
C'était là la réaction du journaliste nigérian Sidi Kaba sur le discours d'orientation de la politique française en Afrique d'Emmanuel Macron. Améliorer la qualité du partenariat entre le Burkina Faso et l'Union européenne, surtout en cette période de crise sécuritaire, c'était là le menu des échanges à la 16e session du dialogue politique qui s'est ouvert hier sous la présidence du ministre en charge de la fonction publique Bassolement Bazim. Retour sur les points chauds de cette 16e session avec Chalda.
Pour cette 16e session du dialogue politique entre le Burkina Faso et l'Union européenne, le ministre en charge de la fonction publique Bassolement Bazim n'a pas manqué de souligner les priorités du Burkina dans cette relation diplomatique.
Le plan d'action pour la stabilisation et le développement axé sur quatre piliers prioritaires que sont, premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Deuxièmement, la réponse à la crise humanitaire. Troisièmement, la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Et quatrièmement, la réconciliation nationale et la cohésion sociale.
Outre les problèmes d'insécurité que vit le Burkina Faso, il sera question aussi de certaines relations sous-régionales entre le Burkina Faso et ses pays voisins. Olivia Rwamba, ministre en charge des Affaires étrangères.
Et il est évident que quand j'ai relevé cet aspect des choses, il n'a pas manqué de relever la question cruciale justement de la position géographique, géopolitique du Burkina Faso dans la sous-région. Et il est évident que bilatéralement, on va échanger, mais la question aussi sous-régionale est une question de préoccupation.
L'Union européenne, pour sa part, examinera les demandes du Burkina en vue de garantir une meilleure relation diplomatique. Bernard Quintin, directeur général adjoint de l'Union européenne en Afrique.
Dans une double mission. Il y a le dialogue politique, exercice régulier mais néanmoins important. Mais je dirige aussi une mission interservice avec des services du service diplomatique européen, mais aussi de différentes directions générales de la Commission, justement pour voir comment nous pouvons répondre de la manière la plus complète possible aux demandes qui sont déjà été exprimées et aux nouvelles demandes qui pourraient être exprimées à l'occasion de ce dialogue, entre autres. C'est évident que le programme d'action pour la stabilisation et le développement est déjà un excellent cadre dans lequel nous pouvons travailler.
Le Burkina Faso, depuis 2015, est plongé dans un cauchemar de violences répétées qui a conduit à une instabilité politique depuis le 24 janvier 2022. Le retour à l'ordre constitutionnel normal est beaucoup attendu par les organisations internationales, mais le plus préoccupant pour le gouvernement de la transition demeure le retour de la sécurité.
La revue annuelle 2023 du cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative locale s'est tenue hier à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les acteurs des différents ministères ont passé en revue deux projets, notamment les projets de rapport de performance sectorielle annuelle 2022 et du plan d'action sectoriel pour la stabilisation et le développement 2023-2025. Le point avec Abdoulkader Konaté.
Représentants des ministères et institutions, représentants des collectivités territoriales, tous passent en revue l'ensemble des projets mis en œuvre dans le cadre du PNDS 2, PND et du plan sectoriel pour la stabilité et le développement PASD 2023-2025. Malgré le contexte sécuritaire difficile, plusieurs activités ont été réalisées dans les ministères membres du cadre CSD-GAL. Étienne Kabouret, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance.
Nous avons un certain nombre d'acquis. Nous avons par exemple au niveau du ministère en charge de la fonction publique, la suspension des recrutements sur mesure nouvelle. Nous avons également l'audit de l'ensemble des recrutements. Et en 2022, nous avons été en mesure également d'adopter par le Conseil des ministres le projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie. Nous avons pu également mener dans l'ensemble des 45 provinces, dans l'ensemble des 13 régions, des sessions de sensibilisation à l'endroit de l'ensemble de la population pour contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent.
Sur la période de 2022, seulement 50% des activités prévues ont été réalisées. En plus de la situation sécuritaire, la rareté des ressources explique également ce taux moyen. Qu'à cela ne tienne, les partenaires techniques et financiers rassurent. Elsie Laurence Chounoun, chef de file des partenaires techniques et financiers.
Nous, on ne peut rien faire pour la sécurité, mais au moins pour les ressources financières, on peut engager des dialogues avec les partenaires, les PTF, de manière à ce qu'on puisse améliorer l'accès aux ressources financières, de manière à pouvoir faciliter la mise en œuvre des activités prévues.
Le cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et locale, CSD-GAL, qui regroupe plusieurs ministères, entend mener plusieurs actions à venir, entre autres l'adoption de la loi portant financement des partis politiques, celle portant statut de la chefferie traditionnelle et la relecture du code électoral.
L'équipe de l'Office national de contrôle des aménagements et de construction a procédé hier à une opération d'arrachage de bornes illégalement implantées ainsi que des avis de démolition des occupations archaïques appartenant à la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonatune. Cette scène se déroule dans la commune de Komsilga, précisément au quartier Gargan. Fawzia Azongo et Momoni Tambora pour le reportage.
Des bâtiments illégalement construits et des bornes illégalement implantées sur un site appartenant à la Sonature ont été retirés. Ces bâtiments, dont certains construits à niveau, seront tous détruits. Yakuba Siko est le directeur général de l'Office national de contrôle des aménagements et de construction.
Cette zone-là, par exemple, est une zone déclarée d'utilité publique. La Sonature dispose de documents d'autorisation, par exemple, pour aménager. Donc, ce qui fait que dès qu'on va finir de déterrer les bornes, on invite les gens à démolir, s'ils peuvent le démolir pour ne pas que ce soit des démolitions massives avec des pertes que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, ces bâtiments, s'ils sont toujours là, ils sont considérés comme des bâtiments qui sont illégalement installés.
Ce qui arrive à ces habitants de Gargain n'est pas une surprise. Ils ont été plusieurs fois interpellés par la Sonatur, à en croire le directeur général de l'Office national de contrôle des aménagements et de construction.
La dernière communication de la Sonatur par rapport à l'occupation de la zone, ça date de la semaine passée. Et ça, c'était la troisième interpellation qui avait été faite à l'endroit de ceux qui avaient la prétention d'accueillir des parcelles ou des logements ici. Trois années successives, ça a été fait. Et bien avant, au moment où les collectivités territoriales avaient toujours leur conseil, il avait été mené une opération d'information, de sensibilisation et même de mise en demeure de déguerpir de ces zones-là. Voilà, donc vous voyez que c'est des cas de récidive, donc ce qui fait que aujourd'hui nous sommes pleinement dans l'action parce que simplement on pense qu'il faut qu'on règle la question là autrement que par la sensibilisation.
Les propriétaires terriens se disent mécontents de cette situation. Ousmane Ouedraogo, après un investissement d'environ 6 millions de francs CFA, ne sait plus à quel sens se vouer.
Au Burkina Faso, il y a beaucoup de sociétés immobilières. Ces sociétés, même la Sonatur, ce sont des sociétés immobilières. Si ces derniers-là, ils gagnent leurs agréments où? Ce sont les autorités qui leur donnent leurs agréments. Mais maintenant, si leurs agréments, bon, je ne sais pas, c'est été corrompu bien, c'est quoi, en tout cas, on n'en sait jamais. Moi, je veux que vraiment, en dehors de ça, là, que l'État prenne vraiment des mesures juridiques pour que ces genres de choses-là n'arrivent pas. Vous ne pouvez pas laisser la population, ils vont investir des milliards, des millions, et que bon, et à un moment donné, vous vous levez pour, en tout cas, déserpir les gens.
Par ailleurs, pour éviter ce type de désagrément, l'Office national de contrôle des aménagements et de construction invite les populations à aller à l'information avant un quelconque investissement foncier, après la commune de Komsiliga. Plusieurs autres communes seront visitées par l'Office national de contrôle des aménagements et de construction.
Fespaco News.
21 prix spéciaux seront décernés à cette 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Des prix d'une valeur de 110 millions de francs CFA qui ont été institués par 15 donateurs issus de plusieurs institutions. Les prix ont été présentés à la presse hier. C'était en présence de Valérie Guéret.
C'est devenu une tradition pour le FESPACO et ses partenaires, reconnaître le mérite des cinéastes à travers des prix. Et pour cette année, ce sont au total 21 prix spéciaux divisés en 4 catégories qui seront remis. Ces reconnaissances sont un plus pour la qualité du festival. Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO.
On est tous conscients de la faiblesse de notre industrie cinématographique. Aujourd'hui, pour faire un film de très bonne qualité, le cinéma augmente à pas moins de 1 milliard de francs CFA, soit lorsqu'on veut avoir un film qui est compétitif. Donc il arrive souvent que les producteurs, dans la démarche de recherche de financement, sont en cours d'argent ou s'endettent pour pouvoir terminer le film. Voilà des prix spéciaux. Et en même temps, s'ils reçoivent aussi des prix en sélection officielle aussi, peut arriver à équilibrer leurs dépenses.
Cette édition marque des changements au niveau des prix spéciaux. Le prix spécial Cinis, doté de 2 millions de francs CFA, devient prix de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Deux nouveaux prix spéciaux font leur entrée également. Il s'agit du prix spécial plan international de l'égalité aux filles pour la combativité et l'innovation en faveur des filles d'une valeur de 5 millions de francs CFA et le prix spécial Water Aid, climat, eau et assainissement en Afrique d'une valeur de 5 millions. L'ONG veut utiliser le 7e art pour sensibiliser la population. Célestin Pouya, partenaire Water Aid.
En fait, Water Aid est revenu parce que nous avons cru que le FESPACO, c'est vraiment un partenaire incontournable pour atteindre nos cibles de plaidoyer et nos cibles de communication.
Des partenaires traditionnels continuent leur accompagnement. Ce sont entre autres la CEDEAO avec 4 prix spéciaux, ainsi que l'UMOA, la mairie de Ouagadougou. Elle va offrir le prix à Babacar Sam Makaram. Et le dernier prix, et non des moindres, est celui de l'ALT, doté de 7 millions.
Radio Omega, hors de nos frontières au Nigeria, c'est le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, qui remporte l'élection présidentielle. Selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale ce mercredi, il a obtenu 8,8 millions de voix. Il obtient également 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la Fédération, ainsi que le territoire de la capitale Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur. Avant la proclamation des résultats, l'opposition avait demandé l'annulation de l'élection, dénonçant des fraudes massive. Et puis en Grèce, un accident de train a coûté la vie à au moins 32 personnes et fait des dizaines de blessés. Un feu s'est déclaré dans un train de passagers dont les wagons ont déraillé après une collision avec un convoi de marchandises près de la ville de Larissa, dans le centre du pays. Et c'est cette information que nous réfermons à ce journal et nous réfermons avec ce proverbe, un proverbe que beaucoup connaissent d'ailleurs. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Un proverbe qui en dit beaucoup et d'ailleurs que nous connaissons tous, même. Malheureusement, force est de constater que beaucoup ignorent donc ces personnes âgées considérées pourtant en Afrique comme étant des bibliothèques dans nos services, nos quartiers ou même au sein de nos familles, des personnes âgées qui passent les journées seules parce que les jeunes ne les portent pratiquement pas d'intérêt. Et pourtant, une pensée donc à toutes ces personnes merveilleuses à notre écoute, Fidèle Compaoré, à la technique, Denise Ungrana pour la présentation.
Radio Omega, l'info en direct.